Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Stories, c'est l'heure de débattre, de discuter ensemble au 32-16, ensemble jusqu'à midi, bien sûr 180 minutes autour de ce qui fait nos faits de société du jour en France, avec Zora Bitton, cadre de la fonction publique, bonjour Zora.
Bonjour à tous.
Antoine Diers, consultant auprès des entreprises, l'homme du 5h12 de Dunkerque, bonjour Antoine.
Exactement. Salut Alain, salut à tous.
L'homme du bus pour le retour.
Retour en bus.
Retour en bus, mais tu as eu ton train ce matin.
Oui.
Bon, tu peux faire un bisou à Bruno Poncet, alors cheminot et syndicaliste, bonjour.
Je penserai à lui pendant mes 4h30 de bus pour rentrer à Dunkerque.
En plus, t'es grand, t'as les genoux dans le
bus. Mais t'aurais pu passer un coup de fil en disant il y a le train d'Antoine.
J'ai passé un coup de fil.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de bus, je crois. Il n'y a pas de train. C'est pour ça qu'on
rentre en bus.
Merci Bruno, merci beaucoup.
Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes nuits? Bien sûr, de la grève à la SNCF. Ça y est, on est dans le dur maintenant. Dites-nous comment vous vivez ça, 32-16 pour en parler. Et surtout, si vous êtes en colère, mais en colère après qui? Est-ce que vous êtes en colère après les syndicats? 32-16 pour le dire aux grandes gueules. À 10h, c'est une agricultrice qui sera avec nous, Delphine Serrault, éleveuse de chèvres dans l'Indre. Elle est gravement endettée, elle s'est rendue à l'Elysée pour appeler à l'aide, elle est allée à Matignon aussi. Elle viendra nous parler de son quotidien. Aujourd'hui, en fait, on peut lui saisir sa ferme, on peut envoyer ses chèvres à l'abattoir. C'est vraiment une agricultrice désespérée qu'on va recevoir tout à l'heure. On verra avec toute son émotion ce qu'on peut faire aussi peut-être pour elle. Donc rendez-vous à 10h. Tiens, si on parlait de Mbappé d'abord.
RMC, les grandes gueules.
Puisque tu pars.
Ouais. À la rupture.
C'est vrai, ça a été la nouvelle, c'était une info RMC hier qui a été annoncée en fin d'après-midi. Mbappé qui s'en va. Alors, c'est la une de tous les journaux. Hein. Adios, Mbappé annonce son départ. C'est décidé, je te quitte. C'est la une de l'équipe pour Paris Saint-Germain. Je vous promets, on va pas en faire des caisses. On va pas pleurer. Mais c'est quand même le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Le monde entier regarde Kylian Mbappé qui quitte le Paris Saint-Germain, très vraisemblablement pour aller au Real Madrid. On a un fan du PSG avec nous, c'est Bruno. Ça t'a fait quelque chose quand t'as appris la news ou pas? Franchement, non, mais franchement.
Tu
peux dire aussi, ouais, bon, ça va, on s'y attendait, on va passer à autre chose.
Ouais, voilà, il y a ce côté-là, ça fait quand même un bout de temps que c'était un peu dans les tuyaux. Et depuis l'année dernière, on était quasiment sûr qu'il partirait. Après, c'est un immense joueur. Après, il a pas suscité l'amour du parc comme d'autres. Hein. Moi, tu vois, moi, je suis un fan de Susic. Ouais. J'ai vu jouer dans les années 80.
C'est les années 80, bien sûr.
Voilà, et moi, Susic, pour moi, c'est resté le plus
disons grand, que là, il quitte le PSG après 7 ans sans avoir remporté la Ligue des Champions. Alors, en même temps, c'est une flopée de records. Hein. 222 buts. Hein. Ouais.
Mais c'est incroyable. Enfin, la trace qu'il laisse dans le club, elle est immense. Après, la trace de l'émotionnel, elle n'est pas si immense que ça, tu vois. T'en as d'autres qui étaient, en 2016, on perd Zlatan, tout le monde dit, ah, c'est la fin du club. Un an plus tard, ils ramènent Mbappé et puis Neymar. Tu vois, voilà, c'est comme ça, les Qataris, ils trouveront un autre projet. Hein.
Mbappé, c'est un modèle pour plein de gosses aussi, quand même. Modèle de réussite. C'est un type qu'on disait, tu vois, avec la tête bien sur les épaules, qui mène bien sa carrière, qui s'exprime correctement. Partout où passe Mbappé, tous les stades où il va, alors le PSG rempli, mais tu viens voir aussi jouer Mbappé, quoi, Antoine, ou tu t'en fiches complètement, toi?
Écoute, moi, je suis pas très foot. Mbappé, moi, j'ai beaucoup aimé le Mbappé d'il y a quelques années, plutôt humble. Tu sais, face à la caméra, il était plutôt timide. Et les dernières années, j'ai vu un Mbappé plus arrogant, parfois un peu gênant, tellement il était sûr de lui. Et surtout, moi, je comprends pas ces sports collectifs qui deviennent finalement une espèce de spectacle où on vient voir une star. Ça reste un sport collectif. Moi, je trouve qu'il a peut-être pris trop de place dans l'équipe.
J'aimerais être un joueur qui est un peu hors norme, la manière, son mental, les buts qu'il met.
J'aimerais pas être un de ses coéquipiers. Parce que t'as le sentiment que ton boulot, il est complètement effacé, que tout le monde ne regarde que lui. Je sais pas comment je me comporterais dans une équipe avec un joueur qui prend autant de place.
Zora?
Moi, je suis pas foot du tout. Mais
tu t'en fiches de Kylian Mbappé?
Oui, non seulement je m'en fiche, mais après, le personnage. Alors, moi, je sais. par d'autres canaux que Mbappé est très impliqué dans beaucoup de causes. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est ancré dans la société et qui apporte tout ce qu'il peut, partout où il peut. Et ça, c'est vrai. Donc c'est plutôt bien.
Et relativement discret.
Voilà,
en plus,
il est discret. Donc moi, je le sais. Donc ça, c'est plutôt, ça rend le personnage complètement ancré dans la société. Il n'est pas en grosse tête. Et puis, c'est pas parce qu'on clame pas ce qu'on fait qu'on fait rien. Après, le foot en tant que tel, moi, j'ai envie de dire, voilà, c'est.
Enfin, c'est la loi du marché du foot.
Oui, enfin, moi, pour moi, c'est un truc un peu indécent maintenant, le foot.
Les sommes qu'il touche.
Enfin, pas que lui, le foot dans son ensemble, c'est un peu n'importe quoi. Donc,
c'est 200 millions, hein. Tu sais que c'est l'État français qui va perdre du pognon aussi, hein.
Ah, on a un
parce
pot,
que Kylian Mbappé, c'était quasiment 50%. L'État derrière, en taxes diverses et variées, prenait 50%. Bah, donc ça rapportait pas mal d'argent à l'État. L'État va, le départ de Mbappé va creuser le déficit.
Ah, mais y a pas que ça. Là, on est en négociation des droits de télé. T'as plus Mbappé, qui sait que tu mets en tête de gondole. Ouais. Dans les stades aujourd'hui, quand le PSG se déplace, les stades sont pleins. D'un point de vue économique, c'est quand même un sacré coup sur la tête un peu.
Et c'est la valeur du foot français, quand tu vas vendre les droits aussi. T'as raison.
Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'après, moi, je pense que peut-être que là, on jouera différemment. Peut-être qu'on jouera plus en équipe. D'ailleurs, on commence à jouer un peu plus en équipe. Voilà, c'est comme ça.
Mais ça va libérer de la masse salariale pour pouvoir acheter d'autres joueurs, peut-être pas des joueurs stars, mais pour faire un collectif.
Moi, je comprends pas qu'il aille au Real Madrid, en fait. Moi, je peine à comprendre cette destination. Après, le club est beau, machin.
14
tout.
Ligue des Champions, s'il y a bien un club avec lequel tu auras les chances de remporter la Ligue des Champions.
Mais Ballon d'Or, il l'aura pas. Il y a déjà Vinicius, il y a déjà Bellingham. À un moment donné, il va falloir qu'il partage les points. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Donc, moi, je serais lui, j'aurais été à Liverpool, qui est le club mythique. En plus, c'est mon club. Et moi, j'aurais été à Liverpool à sa place. T'es la star du truc. Et t'es au cœur d'un projet.
On passe par le 32-16. Avant d'évoquer la grève SNCF dans deux minutes, juste le temps d'écouter Cyril qui nous appelle de la Manche. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Salut
bonjour.
Cyril, Kylian Mbappé qui s'en va ce matin. Vous avez ressenti un choc ou dites le foot va s'en remettre, dites-moi.
Alors, faut me tutoyer, faut pas vous voyez comme ça. Non, je plaisante, mais alors moi je suis mitigé. Alors moi j'aime beaucoup le football et particulièrement le Paris Saint-Germain, c'est pour ça que je voulais intervenir. Et donc, clairement, il y a deux choses. C'est qu'on est en train de dire que il accapare un peu toutes les tout autour de lui, tout le monde parle de lui. Mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Kylian Mbappé, lui, il sollicite pas la presse. Il vient pas en conférence de presse. C'est pas lui qui fait que tout le monde parle de lui. En fait, il ne demande pas ça. Donc aujourd'hui, les gens, j'entendais encore hier soir sur votre antenne dire, c'est cool, on va arrêter de parler de Kylian et on va parler du PSG. Quand il va partir, oui, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, on va quand même perdre le meilleur joueur du monde. Et moi, c'est ma crainte, en tant que fan de foot et accessoirement du Paris Saint-Germain, c'est comment on va faire pour compenser un joueur comme ça, parce qu'encore mercredi, il a été bon. Et que
c'est lui qui débloque.
On va jouer en équipe, on joue déjà en équipe. Aujourd'hui, lui, il fait rien qui pourrait faire en sorte qu'il n'a pas un mauvais comportement. Et comme le disait tout à l'heure l'une de vos... elle parlait de son investissement auprès des jeunes, auprès des associations, et ça c'est vrai. Donc pour moi c'est quelqu'un de bien. Aujourd'hui, vous, la presse, radio, télé, c'est vous qui avez besoin pour manger un peu de parler de lui. Hein, c'est comme ça. Si c'est pas lui, c'est Ronaldo et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il accapare tout parce que tout le monde a envie de parler de lui, tout le monde a envie de le voir. Il va aux États-Unis en NBA. C'est un truc de fou ce qui s'est passé quand il est allé voir. Enfin, je veux dire, c'est incroyable.
Quand il s'assoit dans les tribunes partout. Oui, mais c'est une star. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Il est suivi par la. Il attire l'attention, il attire la lumière. C'est le star système du foot. Aujourd'hui, il y aurait un Pelé aujourd'hui. Tout le monde serait derrière lui aussi. Vous voyez. Déjà à l'époque, tout le monde était derrière lui. Écoutez, on va voir dans les semaines à venir. Vous continuerez. Merci Cyril d'avoir été dans les GG. Vous en discuterez avec nos petits camarades des sports là à partir de 15h chez Vincent, chez Rotten, dans l'after aussi. Sur Kylian Mbappé, est-ce que le PSG va s'en remettre, le foot français va s'en remettre. Ce sera au 32-16 que ça se passera. Au 32-16 maintenant, on va évoquer la grève à la SNCF, parce que c'est ça le plus important, c'est ça votre quotidien. On a la chance d'avoir Bruno Poncet, cheminot, avec nous. C'est un train sur deux, ça y est, on y est au régime sans train, si je puis dire. La question qui est posée aujourd'hui, et j'entendais ce matin des voyageurs dire, on ne comprend pas ce conflit, en fait. Tu vois, on le pige pas, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a des syndicats qui ont dit non, il y a eu des avancées, nous, on n'est pas dans le mouvement de grève. Il y a le mouvement de grève des contrôleurs, qui est relayé par Sudrail et par la CGT, et la direction qui dit on ne comprend pas non plus. Ça fait un an qu'on discute et qu'on a fait des propositions. Donc, franchement, à qui la faute aujourd'hui, ce conflit là que vous vivez sur les quais? Est-ce que c'est la faute à la direction? Est-ce que c'est la faute au syndicat? Est-ce que vous êtes en colère ou non? 32-16 pour en parler, Antoine.
Moi, je pense qu'ils se rendent pas compte qu'ils vont les grévistes, qu'ils vont casser leurs jouets. C'est-à-dire que là, je pense que qu'on arrive à la grève de trop, où il y a un certain nombre de politiques qui commencent à dire non mais il faut revoir le droit de grève, être en mesure de les réquisitionner, les empêcher, etc. Donc je pense qu'on arrive au point de rupture où peut-être que ce système de grève sur grève à la SNCF pour demander toujours plus, et ben peut-être va enfin être cassé, s'arrêter. Et moi, j'espère qu'on va arrêter d'être toujours dans la main de ceux qui décident, parce qu'ils sont dans une posture où ils peuvent avoir des conséquences sur le quotidien des gens. Ils décident de faire pression.
C'est-à-dire, t'entends pas les revendications non plus pour la prime de travail, pour les augmentations de salaire, pour la prise en compte pour la retraite.
Je l'ai dit ça, l'autre jour ici, on m'en a reparlé dehors. J'ai parlé d'aristocrates. Oui, je maintiens, c'est des aristocrates au sens où ils sont déjà mieux lotis que ceux qui bossent dans le privé et qui ils en veulent encore. Mais non, les temps sont durs pour tout le monde et il faut arrêter de tirer toujours plus.
Alors, t'as un aristocrate à côté de toi, Bruno de Poncé.
Ouais, Bruno de Poncé.
Vas-y, Bruno. Ouais.
Allez-y, monsieur le comte.
Du côté de ma mère, c'était un peu ça. Non, mais après...
Est-ce que tu comprends qu'on ne comprenne pas?
Ah oui, moi je comprends tout à fait.
On ne pige pas.
Mais aujourd'hui... moi, je pense que...
Quand on dit que vous avez une augmentation en moyenne de 20% sur 3 ans, qu'il y a des primes qui ont augmenté, alors peut-être pas sur les traitements, sur le salaire lui-même, mais il y a de l'argent qui a été donné quand même, Bruno.
Bah, moi, je trouve que ce qui est un peu particulier, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce mouvement-là, il est un peu spontané. Au point de départ, c'est quand même l'année dernière, c'est un mouvement spontané. Là, aujourd'hui, vous avez des taux de grévistes qu'on n'a pas quand c'est des grèves sur les retraites ou même la réforme ferroviaire. On n'a pas eu ces chiffres-là. C'est-à-dire que là, tu as une population, une corporation qui se met en grève sur ses revendications propres, qui a prévenu depuis quand même, ça fait quand même 2-3 ans que c'est sur la table. Et moi, pour te dire, lundi, mes collègues, mes potes de Surail et puis les autres syndicats ont rencontré la direction et depuis lundi, plus de son. C'est-à-dire que la direction, depuis lundi, a coupé le son. C'est-à-dire que quand tu parles de négociation...
Parce que là, c'est pas l'heure à la négociation. Ah bah là, si. Il faut surtout faire tourner les trains. Se mobiliser pour les clients, pour les voyageurs.
Que nous, on est obligé de se déclarer. Il n'y a pas de service minimum. Tu es obligé de te déclarer
48 heures avant.
48 heures avant. Donc,
faut rappeler comment d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aiguilleur, contrôleur et conducteur. Et qu'il y a un des trois qui manque dans un train, le train ne roule pas.
Quelques autres aussi du matériel et tout. Enfin bon. Mais en fait, ce qui fait que depuis mercredi, au moins, ils savaient le nombre de grévistes. Et ils ont rien fait. C'est-à-dire que quand tu arrêtes tes négociations lundi et que tu dis c'est bon, vous avez assez donné, c'est pas bon parce que tu dois continuer à discuter. Parce que moi, les contrôleurs, quand tu parles avec eux, ils te le disent.
Farandou l'a dit, on peut pas céder sur tout. Mmh. Vous pouvez pas tout obtenir.
Sauf qu'il a rien donné, Farandou, au contrôleur. Il a donné il a donné une prime. Déjà, ça reste une prime. Faut jamais oublier que les primes, ça rentre dans rien. Donc, il a donné une prime, très bien.
C'est de l'argent, quand même.
Oui, mais l'argent, tu le prends. Sauf que les contrôleurs, ils sont pas uniquement sur l'argent. Ils sont sur un tas de revendications que Farandou n'a pas goûté. Mais surtout, le pire, moi, je pense réellement. Et ça qui les a rendus dingues, c'est que les dernières, on leur a dit, en décembre, pour que ça s'arrête, et ça s'est arrêté. On leur a dit, vous aurez ça. Et c'était acté, on vous aurait ça. Un an plus tard, t'as rien. Donc, depuis décembre, ils disent, attention, ça va pas, revenez. Ils sont pas revenus. Et tu vois, lundi, il a coupé le son, Farandou, voilà.
Mais ils se rendent bien compte que ça pousse à la privatisation, tout ça.
Antoine, tu parles de
quoi?
Antoine, la SNCF n'existe plus. Aujourd'hui, quand vous dites la SNCF, elle n'existe plus.
Elle n'existe plus, ça reste quand même un service public, même si
c'est un groupe SNCF.
Même si c'est plus embauché au statut. Non,
mais pour le renflouer, ça s'appelle encore SNCF.
Les contribuables ont mis 10 milliards dans SNCF récemment.
Vous avez repris, ils ont repris la dette de réseau qui avait été créée aussi par le gouvernement, par l'État, pour créer des lignes.
Personne n'y comprend rien. En tout cas, on sait que ça marche pas et qu'on paye hyper cher.
Après, ça marche pas. Il y a pas mal de trucs qui marchent bien quand même.
Si, ça marche quand même, la SNCF.
Je prends le train.
C'est un service en plus. Enfin, les Français, ils sont très attachés. On prend tous le train ici. Et ça marche plutôt correctement. Quand c'est impacté par une poignée d'actifs, c'est des millions de personnes qui trinquent. Et qui trinquent au moment où on est en vacances en plus, aux habitants.
D'abord, le nombre de grèves. En plus, il y a quelque chose qui est sans appel. C'est la réaction de l'opinion publique. L'opinion publique en a ras-le-bol. On écoute n'importe qui. Au-delà des revendications, déjà, l'opinion publique n'est pas du tout du côté des revendications de la SNCF. Si tant est qu'on puisse avoir une liste exhaustive et claire des revendications, parce qu'en fait, on ne sait pas trop, puisque tout le monde finit par dire oui, on prend l'échec des primes, on voudrait dans le traitement, mais il n'y a pas que ça, il y a encore une liste de choses, etc. Je pense qu'il y a des corporations, quand ils font grève, c'est beaucoup plus clair. Et il y a un malaise du côté des gens à la SNCF de devoir étaler de manière très précise. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous fassent le menu détaillé de ce qu'ils revendiquent. Ce serait quand même vachement mieux, puisque non. Mais pour l'opinion publique, qu'est-ce qu'il retient? Il retient que c'est une société, en tout cas une entreprise que l'on renfloue régulièrement. Et plus on la renfloue, et plus elle dysfonctionne. Et plus elle dysfonctionne, plus elle impacte l'usager ou le client aujourd'hui. Et donc, l'opinion publique, il ne rentre pas dans les détails. Il dit, moi, je fais que de payer. Non seulement le billet est hors de prix, la guerre des prix est absolument incroyable. C'est-à-dire que tu viens à telle heure, c'est tel prix. Tu ne comprends pas pourquoi l'heure d'après, c'est le triple. Bref, donc, l'opinion publique ne soutient absolument pas les grèves de la SNCF. Et donc, la SNCF a gagné.
Surtout que l'État détient intégralement la SNCF.
Non, mais
il y a des sociétés, mais c'est l'État qui au final détient la SNCF.
C'est un service public.
On
voit bien que les agriculteurs qui font irruption dans le débat public et qui font irruption avec leurs revendications, et peut-être que leurs revendications aussi pourraient être discutées, n'empêche qu'ils arrivent dans le débat de société et spontanément, 80% des Français les soutiennent. Pourquoi ? Mais ça ne veut pas dire que les revendications de la SNCF ne sont pas légitimes. Ça veut dire qu'il y a un problème dans les revendications qu'ils ont et dans la façon dont ils considèrent le travail au regard d'autres qui n'ont pas ce luxe de pouvoir faire grève dès qu'ils en ont besoin ou envie.
Dans un instant, on va en parler avec Gabriel au 32-16, que vous êtes en pétard, en colère aujourd'hui, sachant que cette grève a coûté 20 millions d'euros par jour en plus. Alors, vous allez perdre de l'argent, les cheminots, enfin ceux qui sont en grève, et la société SNCF va perdre 20 millions là sur les 3 jours. Et pour les clients, les usagers, en attendant d'être remboursés, il va falloir trouver des moyens alternatifs. Donc, soit prendre la voiture, ça
l'impact
veut dire faire
écologique.
Le plein, soit prendre des bus, etc. Donc, finalement, c'est perdant-perdant pour le moment. Quoi. Dans un instant, Gabriel avec nous au 32-16. Il nous appelle de Gironde. On verra dans quel état d'esprit il est. La grève à la SNCF, vous êtes en colère, oui ou non? Colère contre qui? La direction de la SNCF ou les syndicats? Vous venez en discuter avec nous. Puisqu'on parlait foot il y a quelques instants, je vous rappelle que vous pouvez toujours vivre l'expérience RMC. On vous propose des matchs à la carte, des affiches à la carte. Dès que vous entendez ceci, vous envoyez RMC par SMS au 7-32-16 et vous choisissez pour jeudi prochain soit Toulouse-Benfica, soit Rennes-Milan AC, soit Marseille-Shakhtar Donetsk. À vous de jouer, à vous de gagner.
Les grandes gueules sur RMC avec Biofib, l'isolant en chanvre idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC,
9h30,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
L'IGG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, on parle de la grève SNCF avec vous. Est-ce que vous êtes en colère? Colère contre qui? Colère contre les syndicats? Colère contre la direction? 32-16 pour en discuter avec l'IGG. C'est Gabriel qui est avec nous. Gabriel, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Bienvenue, vous êtes en Gironde. Alors, est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en pétard?
Alors, je suis super énervé, vous imaginez même pas. En fait, moi, je suis grand voyageur, donc je voyage beaucoup sur la ligne Atlantique. Donc, je fais Paris-Bordeaux. Donc là, actuellement, je suis à Paris. Et ma famille devait monter aujourd'hui même pour me rejoindre, parce que demain, on part en avion. Heureusement, on part en vacances en avion, je dirais. Et en fait, ma famille n'a pas pu voyager. Donc, évidemment, le train supprimé. Et j'ai appelé la dame en fait, j'ai une ligne dédiée grand voyageur. Mmh. Et donc, la dame, super adorable, elle a essayé de me trouver une solution. Elle a pas pu me trouver une solution. Elle m'a dit clairement, il y a 4 trains aujourd'hui. Alors, d'habitude, il y en a 10 ou 15 sur l'axe Atlantique. Et en fait, même cette personne, c'est une anecdote, mais même cette personne, elle était aussi en colère contre les contrôleurs qu'elle appelait des divas. Vous imaginez. Et au sein de la SNCF, elle était en colère contre les contrôleurs et contre sa direction qui avait annoncé le matin même, je crois que c'est mercredi, qui privilégiait l'axe Rhône-Alpes. Quoi.
Oui, donc, l'axe vers les stations
exactement.
Alpines, les stations de
et
ski.
Et donc, elle avait des gens comme moi en colère.
Attendez, c'est intéressant qu'au sein même de la SNCF, celle, la dame que vous aviez au téléphone, ne comprend pas le mouvement de grève, quoi, en fait, c'est
elle
ça.
Elle ne comprend pas, donc elle appelle les contrôleurs des divas. Donc, ce qui montre bien qu'au sein de la SNCF, ils ont avantage sur avantage, comparé sans doute à elle, qui est finalement en lien avec les clients. Et elle entendait plein de clients, voilà, comme moi, qui disaient, écoutez, moi, je comprends pas, je suis sur l'axe Atlantique, c'est un axe assez récent, et finalement, on nous dépriorise des trains pour après aller les mettre sur l'axe Rhône-Alpes. Donc, ça, c'est vraiment grave. Moi, je suis en colère vraiment contre les syndicats. Aujourd'hui, ils sont en train de casser leurs jouets. C'est pas possible d'en être là. Ils devraient, justement, pour travailler l'image vers leurs clients. Je rappelle qu'on n'est pas des usagers, on est des clients.
Ouais, on paye.
Voilà, on paye et on paye
on
bien.
On paye cher, d'ailleurs.
Je, je, le rappelle juste, je vais le dire juste après, je vais l'écrire juste après, mais il devrait au moins se dire, attendez, ok, c'est les vacances, on laisse passer les vacances, on fera grève plus tard. Et moi, les grèves, je suis grand voyageur, je voyage beaucoup, ça m'importe pas, tant pis, je trouverai des solutions. Mais là, le fait que ma famille puisse pas me rejoindre, et donc, se rabattre finalement sur la voiture, où j'ai dû trouver ici en région parisienne un parking pour stocker la voiture pendant une semaine. Enfin, ça va me faire.
Donc ça, c'est un coût en plus. Mais ça, Gabriel, reste avec nous, avec les GG. Tu entends Bruno, que c'est-à-dire même au sein de l'entreprise, et ça, c'est vrai que on l'a vu, on l'a lu, il y a bon nombre aussi d'autres personnels de la boîte qui ne comprennent pas la grève, quoi. Tu as vu ce que disait Gabriel, ce qu'il nous racontait, quoi.
Là, c'est malheureusement le. C'est ce qui va se passer tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des grèves corporatistes. C'est-à-dire, t'as une grève de conducteurs, t'as une grève de contrôleurs. La semaine prochaine, t'as une grève des collègues de l'AFPA. Ouais. Et en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que quand tu faisais des trucs collectifs.
Oui, mais alors, derrière, il faut pas dire que c'est l'intérêt général. Ça pour vous.
Et le truc, c'est que.
Parce que tu dis toi-même, c'est une grève corporatiste.
Mais oui,
quand tu fais une grève corporatiste, derrière, il faut pas que les syndicats disent ce qu'on fait, c'est aussi pour vous.
Mais par contre, moi, je rappelle.
Voilà,
c'est ce qu'ils disent, ouais.
Mais à mon avis, faut se rappeler quand même que c'est pas une grève c'est pas une grève fomentée par les syndicats.
Non, bien sûr. Non, mais vous, elle est relayée.
Oui, mais on l'a relayée parce qu'on leur a donné un outil technique. On leur a donné un outil technique.
Ouais.
Parce que moi, je vois, là, comme les histoires de dire, on va changer le droit de grève. Ok, changer le droit de grève. Les mecs, ils arrêteront quand même, tu vois. À un moment donné, tu vois, vas-y. Mais change le droit de grève, tu déposeras le sac comme on faisait avant, et puis vas-y, mon copain, amuse-toi quand même. Parce que là, t'as pas de prévenance, t'as rien du tout, c'est comme ça.
Non, mais il y a un paquet de personnes qui ont pas le droit de grève dans la fonction publique, je pense aux pompiers, etc.
Aux hôpitaux,
où ils peuvent être réquisitionnés, etc. Je pense que le transport, c'est à peu près la même logique. C'est un service public indispensable aux gens. Et il faut qu'on réfléchisse à comment on peut réquisitionner pour faire tourner les trains.
Parce qu'il y a des milliers de gens qui ont
Gabriel,
besoin de se déplacer.
Et bien,
et c'est incroyable ce que ça peut poser comme problème dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pu déposer leurs enfants et qui du coup travaillent. Et c'est les vacances scolaires. L'histoire de dire qu'il y a que les riches qui partent au ski, c'est totalement faux. Il y a énormément de classes moyennes et de classes un tout petit peu plus supérieures et encore qui ont économisé.
Classes de neige, t'as les
colos. Non, non, puis qui ont économisé toute l'année pour pouvoir partir. Et on nous sort le couplet de ouais, mais de toute façon le ski c'est que les riches. Non, non, non. Il y a des jeunes qui se sont organisés pour se louer un truc ensemble. Il y a des familles, il y a des colos, etc. C'est balayer ça sous le prétexte de ce ne sont que les riches. Le riche, il s'en fout, tu lui mets la grève SNCF, il a 50 000 solutions, y compris à 1000 balles l'aller-retour en taxi, il s'en fout, lui. Donc, c'est pas lui qui est impacté, c'est toujours les classes moyennes et ceux qui sont essorés, ceux qui font l'impôt, ceux qui font la taxe en permanence et ceux qui sont au ras des pâquerettes. Donc, c'est proprement affligeant de voir que, finalement, pour des revendications qui sont absolument pas à la hauteur d'ouvriers et d'employés qui
ne les connaissaient pas.
Non, mais.
Je peux pas dire aujourd'hui qu'elles sont pas à la hauteur, tu les connais pas.
Non,
la SNCF,
ces revendications, elles sont toujours plus tout le temps. C'est-à-dire que le nombre de grèves parle de lui-même. On peut aligner le nombre de financements de cette boîte, le nombre de grèves, et on comprend toujours pas ce qui se passe. Ça devrait rouler. C'est qu'il y a un vrai problème, y compris avec l'État, y compris avec la gestion, y compris avec les cadres qui gèrent cette boîte.
Comme le dit Gabriel, y compris avec son interlocutrice au téléphone, c'est l'ensemble de la boîte serait en grève.
Oui,
il y aurait l'ensemble de la SNCF, tu vois, c'est-à-dire de la guichetière jusqu'au gars de l'aiguillage, du fret, etc. Tu dis oh
là tu t'inquiètes,
là,
bien
les
sûr.
Gars, et au moment de la réforme des retraites, il y avait une vraie lutte, je comprends.
Etc. Il y avait combien de pourcentage de grève pendant la réforme des retraites?
Je dis ok, pourquoi pas, tu vois, mais là, c'est catégoriel et qui impacte des centaines de milliers de personnes.
Et surtout, je peux vous en dire d'autres sur les contrôles.
Allez-y, Gabriel.
L'année dernière, ça allait. On était plutôt contrôlés assez souvent. Et ils sont deux, il faut rappeler, ils sont deux par demi-train, en fait, par train. C'est-à-dire que moi, je prends des trains longs souvent, donc il y a deux trains, donc ils sont quatre, ok? La personne justement de la ligne dédiée me disait, à terme, ça se trouve, on va arriver à un système où, un peu comme le métro, vous rentrez, il n'y a plus de contrôleurs. Et moi, je lui disais, non, mais déjà, on peut peut-être réduire juste à un. Et elle me disait, que un, c'est pas possible parce que il y avait des il y a des problèmes de sécurité.
Ça je peux l'entendre, bien sûr.
Ça fait partie des revendications.
Oui, ça, mais voilà, je suis d'accord là-dessus.
Ce qu'il faut dire, c'est voilà, il faut 4 contrôleurs pour par train, donc c'est énorme. Et je vais vous rappeler, enfin l'année dernière, ça allait, on était contrôlés matin, soir, c'était plutôt voilà, c'est plutôt honorable. Mais là, franchement, depuis 3-4 mois, je ne suis contrôlé que sur un train sur 4, et le matin, parce que je les prends à 6h du mat, le matin, c'est zéro. Aucun. Là, ça fait 3-4 mois, je les ai jamais vus le matin, parce que d'habitude, moi, je dors et ils me réveillent. Et là, ils me réveillent plus, hein, donc je fais ma sieste. Et donc, ils font quoi, en fait? Alors, moi, je sais très bien, ils sont juste derrière le wagon-bar, ils sont entre la voiture 12 et la voiture,
mais
la voiture
13
et la voiture 14. Ils ont une petite cabine qu'ils peuvent fermer, donc c'est encore un petit privilège, parce que nous, on peut pas fermer nos cabines, hein, on est en randonnion. Et ils se mettent là et ils dorment. Donc, ils savent bien, ils sont payés à dormir, ils ont demandé une prime de 400 qu'ils ont eue, ils vont demander une prime, mais ça, dans l'opinion publique, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et moi, je suis très content de passer à la radio pour le relayer, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas tout ça.
Mais quand vous dites qu'ils dorment, vous les avez vus dormir? Parce que moi, j'ai un vrai doute là-dessus. Hein. En fait, là, moi, je comprends ce que vous dites, que vous ne les voyez pas, parce que peut-être qu'il y en a qu'un, et qu'en fait, quand il y en a un, il a surtout la sûreté du train. Donc, le contrôle des billets, c'est une tâche supplémentaire qu'il doit le faire, mais il peut la faire que s'ils sont deux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que peut-être vous ne le voyez pas. Après, quand vous dites qu'ils dorment, moi, je ne vous dis pas que c'est des diffamations, mais prenez une photo un jour quand vous voulez dormir.
Une fois que tu as contrôlé, que tu es passé dans les rames.
Je vais aller taper alors qu'il y a eu.
Non, mais Gabriel, ça encore, si vous laissez encore, à la limite.
Oui, moi, ça ne me gêne pas.
C'est pas le problème, ça ne me gêne pas. Vous voyez, c'est comme dans les avions. Une fois qu'on a compté, qu'on a fait les consignes de sécurité, qu'on est passé donner les plateaux, chacun va sur son siège et puis va à des occupations ou même, pourquoi pas, se repose. C'est pas le problème. Moi, ce qui m'embête plus, c'est quand moi aussi, il y a pas longtemps, j'ai pris le train. Moi, je dis, il est où le contrôleur?
Il y en a pas beaucoup.
J'ai pas été contrôlé pendant une heure et demie ou deux heures, tu vois. Donc, des fois, on en a pas.
Après,
c'est pour ça que quand ils demandent la présence, moi, en tant que voyageur, maintenant, tu passes ton QR code à l'entrée, passes ton QR code, après, tu montes dans le train. Et moi, je suis content qu'il y ait deux contrôleurs pour la sécurité. Aujourd'hui, vu les niveaux de tension et des fois, tu sais pas qui t'as autour de toi, simplement.
Il y a pas que ça.
L'autre fois, t'as des gens qui téléphonaient dans la rame, t'as envie qu'il y ait un contrôleur, il dit, monsieur, dame, vous avez un coin pour téléphoner. Mmh. Tu vois, là, mais je ne les ai pas vus pendant deux heures.
Mais quel est l'intérêt d'avoir des
contrôleurs? C'est là où j'ai du mal à comprendre la revendication et ensuite la concrétisation. Voilà, c'est tout.
Alain, quand tu scannes ton billet, tu ne peux pas passer le portique dans certaines gares, pas toutes, parce qu'il y a des gares où tu... les gares où on peut passer en scannant, tu ne peux pas passer si tu n'as pas de billet, c'est clair.
Oui, bien sûr.
D'accord,
c'est
normal. Déjà, au niveau billet, techniquement, c'est déjà contrôlé. Puisque de toute façon, tu peux pas passer le portique. Donc peut-être que les contrôleurs pourraient avoir une autre tâche que celle de contrôler des gens qui ont déjà été contrôlés dans un portique.
Ils ont d'autres tâches. En fait, le contrôle des billets, c'est peut-être pas la dernière tâche, mais pas loin. En fait, ils ont beaucoup d'autres tâches. C'est-à-dire que par exemple, ils ont une tâche, c'est la sécurité du train, la sûreté du train. Voilà, par exemple, tu vois, il te faut un contrôleur. Si un jour t'as un train sans contrôleur, vous t'en rendras compte si quelqu'un tombe malade.
On est ok pour les avoir, Bruno. C'est pas le problème.
Le truc, c'est qu'à un moment donné,
ce qu'on comprend pas, c'est le pourquoi, si tu veux, de cette grève. Alors que la direction dit on était en cours de négociation et qui dit à tout le monde voilà ce qu'on a proposé et tous les contrôleurs disent c'est faux, on ment. Donc même nous, on sait même plus, c'est pour ça que je te dis, on sait même plus qui dit la vérité dans cette histoire. Concrètement, on voit pas non plus quand on prend le train les uns et les autres l'effectif de ce qu'ils demandent.
Oui, mais moi je suis pas là pour raconter la messe, je suis pas là pour mentir. Moi je te dis juste que si les mecs sont remis en grève après un an, alors qu'on a fait les promesses sur un an et dans les revendications, elles sont très bien, listées,
elles
sont listées et en fait tu vois, ça n'a pas été rempli et ça, on a menti. Et aujourd'hui j'entends la direction de la SNCF qui t'explique que on ne comprend pas, les contrôleurs ont donné 400 balles. Non, ils ont donné 400 balles à tout le monde en brut, ça c'est pas le sujet. Et ce que demandent implicitement les contrôleurs, c'est juste qu'on respecte l'engagement de l'année dernière qui n'a pas été respecté. Une fois que tu as dit ça, une fois que depuis 2-3 mois tu dis aux gens attention, nous on voudrait bien que vous reveniez sur ce que vous avez dit parce que vous ne l'avez pas fait et qu'ils ne le font pas, et donc tu les préviens en amont depuis très longtemps, disant le week-end du chassé-croisé, nous on peut se mettre en grève si vous ne faites rien, et que ton taulier il vient que vendredi, il vient qu'une fois la semaine dernière pour dire bon voilà, on va vous donner ça, genre il va calmer tout le monde. Non, il calme personne parce que les contrôleurs, on n'a toujours pas répondu à leurs questions.
Je remercie Gabriel d'avoir été avec nous. Bonne journée Gabriel,
merci beaucoup,
d'avoir pris la parole dans les GG. Christophe de Haute-Garonne, conducteur de train, bonjour Christophe.
Et bonjour à tous.
Merci. Alors, je vous en prie, expliquez-nous vous aussi qu'on comprenne.
Je suis en train de bouillir quand j'entends.
Allez-y.
Alors, ce que je veux dire, ça n'engage que moi et ma maigre expérience de 25 ans de cheminot.
Quand même.
Donc plus de 20 ans de conduite. Ce qui me fait le plus bouillir, c'est quand j'entends la méconnaissance des conditions de travail des cheminots. Et quand c'est un client qui se plaint, alors ce sont que les clients qui se plaignent qui vont appeler chez vous, ce qui est logique. Moi, le train, je le prends tous les jours en tant que conducteur ou quand je dois me mettre en place. Donc je sais très bien quelles sont les conditions de travail des contrôleurs. Et moi, j'ai l'impression que les journalistes ne connaissent pas du tout les conditions de travail des cheminots, quoi. C'est plus ce qui se passait il y a 20 ans ou 30 ans à l'époque de l'opulence, de la prime charbon, de 4 personnes pour faire un poste. C'est plus ça. C'est plus ça. Aujourd'hui, c'est super compliqué. D'ailleurs, c'est très compliqué de recruter des cheminots aujourd'hui.
C'est vrai, on le voit bien.
Est-ce que vous pouvez, quand vous dites des conditions de travail, est-ce que vous pourriez être précis, s'il vous plaît ? Nous donner des exemples de choses qui sont totalement dégradées, qui dysfonctionnent et qui rendent difficile votre métier.
Alors, ce qui rend difficile mon métier, c'est déjà au niveau matériel. Jusqu'à il y a 2 ans, j'étais au TER à Toulouse. Aujourd'hui, chez Intercité, ça va un petit peu mieux. Mais au niveau matériel, jusqu'à il y a 2 ans en arrière, il fallait que je me batte pour aller trouver du matériel pour faire les trains. Donc déjà, j'avais une charge mentale. Ça, les femmes peuvent le connaître, peuvent le comprendre. J'avais une charge mentale déjà, avant même de commencer ma mission, pour commencer à trouver des machines qui fonctionnaient. Aller d'un point à un autre à Toulouse, alors, c'est pas grand-chose. C'est bien, ça fait marcher, c'est écolo, ça fait faire du sport. Mais quand on prend une demi-heure à appeler à droite, à gauche, parce qu'il y a 50 millions d'intervenants qui gèrent le matériel, il faut trouver le bon interlocuteur.
D'accord, mais alors ça, c'est un dysfonctionnement, c'est une mauvaise organisation de l'entreprise.
Mais Christophe, je comprends.
Comme dans beaucoup d'entreprises.
Christophe,
hein.
Alors là maintenant, moi je l'attendais pas, hein, la charge mentale du travail.
Non, mais
tout le monde a une charge mentale au travail.
Oui.
Je veux dire, quand on arrive tous au boulot, on est tous là à penser aussi à ce qu'on doit faire. Ça prend la tête. Le médecin, il pense à ses patients. Le matin, il se réveille, il sait à peu près qui il va avoir.
Que Christophe vous explique.
Non, mais
Bruno, tout le monde a une charge mentale.
C'est contre
moi
personnellement.
On peut dire ce qu'on veut, mais ce que Christophe est en train de vous expliquer, c'est que dans une boîte normale où tu emmènes derrière toi des fois des centaines de voyageurs, tu ne devrais pas avoir pensé à la sécurité de tes voyageurs parce que tu te demandes sur
quoi tu dois faire. La conscience professionnelle, tu dois y penser.
Non, attends, t'as pas compris.
D'un enseignant.
Dans son métier à lui, il doit conduire le train en toute sécurité. Il doit pas penser à savoir si sa loc, elle est bonne. Parce que souvent, et en plus, il l'a dit dans le TER, souvent les locs, elles sont foire axe. Si ta loc est bonne, si tes collègues vont voyager et les voyageurs dans des bonnes conditions, parce que tu sais pas où tu mets. Nous, les cheminots, on a ce sujet-là, c'est que notre boîte aujourd'hui a couvert d'économie, et avec un taux d'encadrement à plus de 40%, on a un couvert d'économie de tas de trucs. Tu te rends compte que nos conditions de travail sont foirées et les conditions des voyageurs de plus en plus. En plus, vous entendez, vous êtes au bout de la machine, vous entendez, ah putain, je paye 300 balles un aller-retour pour Bordeaux, je sais pas quoi. Mais imagine-toi bien que tu payes 300 balles sur des rames qui aujourd'hui sont à l'arrache. Aujourd'hui, on remet un coup de pinceau, mais on refait plus rien à l'intérieur. Et donc, moi, mes collègues aujourd'hui se posent, ils ont des problèmes qu'ils ne devraient pas avoir en 2024. Et quand ils parlent de charge mentale, c'est pas sur son travail même. Lui, il s'en fout. Lui, il a eu 14 mois de formation. Un conducteur de train, c'est pire qu'un pilote d'avion. Moi, franchement, je conseille à tout le monde d'aller se tenter de faire la formation. On va en parler vite fait. Les mecs, là, aujourd'hui, quand ils montent en train, ils se posent une demande quelle merde il va leur arriver. C'est pas normal.
Bah,
on devrait
pareil.
Dans une structure, ouais, mais on est d'accord.
Pas
mais
un prof
c'est
pareil.
Pas parce que ça arrive aux autres qu'on doit tous
mais non, mais, non, mais, c'est, mais moi, je trouve non, mais ce que je veux dire, c'est que la charge mentale est
pour tous les boulots. Dans un couloir d'hôpital. Je trouve pas normal qu'un chemin se pose la question si son train va pas foirer. Je trouve pas normal
donc, c'est du dysfonctionnement. C'est structurel.
C'est-à-dire que nous, notre boîte, elle est en train de crever.
On va en reparler dans la dernière partie des GG tout à l'heure et je remercie Christophe d'avoir été avec nous. Grève SNCF, simplement votre ressenti aujourd'hui. À qui la faute? Est-ce que selon vous c'est à la direction? Est-ce que c'est au syndicat? Voyons ce que vous en dites. Syndicat 64, direction 36. Allez, dans un instant, on s'en fout pas. Ah, le foot! Oh là là! Le foot, c'est le moment d'envoyer 5 minutes. Vous avez 5 minutes devant vous pour envoyer RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. Et ensuite, si vous êtes tiré au sort, vous choisissez le match auquel vous voulez assister. Toulouse-Benfica, Rennes-Milan AC ou OM-Shakhtar Donetsk. Les 3 matchs sont jeudi prochain, 18h45 ou 21h. Allez, envoyez RMC par SMS au 732-16.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous aujourd'hui. Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Antoine Diers, consultant auprès des entreprises. Nous sommes avec Zora Bitant, cadre de la fonction publique. Une agricultrice, une éleveuse de chèvres, tout à l'heure avec nous à 10h dans les GG, au moment où la colère paysanne remonte. Elle viendra nous parler de sa situation. compliquée, elle est endettée, elle a peur qu'on saisisse sa ferme, qu'on envoie ses chèvres à l'abattoir. Elle viendra raconter son quotidien avec nous tout à l'heure à 10h, une éleveuse de chèvres de l'Indre. Allez, on y va pour l'on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. 8 jours les GG, 8 jours avant le salon de l'agriculture. Et salon sous haute tension, hein. C'est la crainte en tout cas des renseignements généraux. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Antoine?
On s'en fout pas.
Et Zora?
On s'en fout pas.
Alors les RG qui publient une note pour prévenir que les visites de personnalités politiques porte de Versailles pourraient être mouvementées. Certaines d'entre elles, du gouvernement ou de partis de gauche, risquent même de ne pas être les bienvenues du tout. Pourquoi on s'en fout pas, mon cher Antoine? Tiens.
Moi déjà, j'ai une affection toute particulière pour le salon de l'agriculture, parce que je le fais depuis des années et que pour moi c'est un bon moment.
On y sera avec les grandes gueules hein, d'ailleurs.
Exactement.
On sera présent sur le stand des Hauts-de-France, ou bien pourrez venir nous voir.
Et ensuite, dans une autre vie, j'ai été collaborateur d'élus, j'ai organisé des déplacements sur le salon, et j'ose à peine imaginer le stress dans lequel vont se retrouver certains collaborateurs quand leurs patrons détestés par les agriculteurs vont devoir y aller. Donc ça va être une belle galère aussi pour eux.
Bruno?
Ben c'est moi je trouve ça bien déjà que c'est dommage qu'ils les préviennent, ça aurait été mieux qu'ils les préviennent pas, mais à force de leur faire des promesses qui tiennent pas, à force de les prendre pour des cons, ben à un moment donné quand tu vas être confronté à ceux qui souffrent, parce que là ils ont fait quoi les dernières mesures, ils ont juste fait plaisir à les fenesseurs. Maintenant il va falloir qu'on parle un peu aux éleveurs en fait, parce que c'est eux qui souffrent le plus. D'ailleurs on aura Delphine, elle va vous expliquer, mais et donc moi je trouve que c'est bien, et il va être temps qu'ils soient confrontés à la vraie vie, aux gens qui souffrent réellement, parce que les agriculteurs ont pas retiré les barrages parce qu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont retiré les barrages parce qu'à un moment donné fallait s'occuper de leurs bêtes, fallait s'occuper du, ils ont des trucs à faire, tu vois.
Les annonces quand même.
Mais les annonces, si aujourd'hui t'es rare, des annonces ça fait 15 jours, ils sont déjà mécontents. Ça vous prouve bien qu'à un moment donné il y a pas d'effet. C'est
Zora.
Comme ça.
On a souvenir que chaque salon de l'agriculture, Nicolas Sarkozy, si vous vous souvenez,
François Hollande, Emmanuel Macron, l'œuf sur la tête.
Voilà,
candidat,
c'est vraiment l'endroit où sont chahutés les politiques. Donc, ils préviennent, c'est vrai, mais de toute façon, même s'ils n'avaient pas prévenu, ils savaient très bien que c'était l'endroit de la revendication et de l'endroit où ça allait être sifflé, hué, etc. Donc, rien de nouveau. Ça a été le cas il y a des années, ça n'a pas changé grand-chose.
Là, je pense que ça va au-delà. Ça va au-delà. C'est-à-dire que tu as une scission syndicale aujourd'hui qui est marquée entre la FNSEA et la coordination rurale. D'ailleurs, ce qui commence à faire dire à certains, quand tu écoutes et que tu lis un peu entre les lignes, que tu pourras avoir beaucoup d'applaudissements et même une haie d'honneur pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, et des sifflets pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le Premier ministre. D'ailleurs, le patron du salon de l'agriculteur, disait hier aux agriculteurs en direct sur BFM TV, n'oubliez pas que c'est... Et dire on peut faire de la politique, etc. Mais n'oubliez pas que c'est une fête aussi, qu'il y a des milliers de gens qui viennent, et donc ne gâchez pas la fête.
C'est la France abandonnée par Terra Nova de 2012, le PS qui a dit les ouvriers, les employés, tous les agriculteurs, il faut pas s'en occuper, il faut les laisser au RN. Et ben on a le résultat aujourd'hui. Voilà,
c'est donc la France. Donc ils n'ont qu'à s'en prendre.
Mais bien sûr, c'est la fracture française de Christophe Gulli. C'est la France périphérique. Enfin c'est tout ce qu'on sait depuis 30 ans que tout le monde écrit et que sociologiquement tout le monde a expliqué, qui aujourd'hui se dit, on va trouver les réponses.
C'est le veut prendre le pouvoir.
Mais quoi. Totalement, mais c'est
voilà. Vivement que ça arrive. Hein.
C'est ça qui se passe en tout cas. Antoine.
Les GG, admiration pour Hitler, propos complotistes, paroles antisémites. Fritz Corleone fait polémique. Deux concerts du rappeur ont été interdits par décision préfectorale. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Zora?
On s'en fout pas.
Antoine.
J'adore le rap, on en a parlé récemment. On ne s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Annulation hier soir au Zénith de Lille. Demain à Lyon également. Interdiction en cascade depuis novembre dernier en fait. En cause, les paroles de certains titres, les GG. J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30 par exemple. Ou encore, rien à foutre de la Shoah. Enfin dernièrement, une allusion dans son dernier titre à l'attentat de la promenade des Anglais à Nice. Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a même été ouverte. Pourquoi on s'en fout? Faut pas, mon cher.
Le dernier morceau en ce qui concerne l'attentat Nice, les paroles, c'est Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la
promenade.
Ben, on sait pas. Il y a trois petits points de suspension, il dit rien derrière. Zora Habitant.
Créer des morceaux comme cela et permettre à des des milliers de gens, ou en tout cas de jeunes en particulier, de les reprendre en refrain, c'est problématique. Bien sûr que c'est problématique. On peut pas faire une chanson en prenant des références nazies, antisémites, complotistes, etc. et en faire des morceaux tendance pour que les jeunes se les approprient. C'est, on dit toujours que la chanson dit des choses, que les textes disent des choses. On dit que c'est militant, etc. C'est vrai, ça peut, c'est super. On a connu des grands auteurs qui avaient des messages à passer sur plein de domaines de société. Aujourd'hui, on peut pas accepter que l'antisémitisme ou le complotisme ou toutes ces haines, et ben soient promues en refrain à disposition des gens et des jeunes.
Ah mais je me marre un peu intérieurement parce qu'il y a quelques jours, on me disait oui, le rap, c'est une super culture. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça.
Mais oui.
Rachida Dati va recevoir les rappeurs au ministère.
Tu limites le rap à Fritz Corleone, t'es trop fort, toi.
Je te le limite pas.
Non, mais c'est incroyable, toi. C'est comme si.
Je te dis juste,
attends, il finit.
Le rap, c'est précisément ça. C'est précisément une contre-culture.
Non, mais non, c'est faux. Archi-faux.
Restons sur les interdictions. Restons sur l'interdiction. Repartons pas sur le débat.
Mais t'es dans un délire, toi. Il y a un mec dans la variété qui fait un truc naze, toute la variété qui fait. Non, mais tu caricatures totalement.
Attends, mais il finit.
On touche là au cœur du rap. C'est de la contre-culture.
T'as dit de la sous-culture. Redis-le.
Donc, moi, je suis heureux qu'on réagisse et qu'on interdise.
Bruno Poncé.
Bon, on a j'ai à côté de moi un grand fan d'Henri de Lesquin. Ça me fait plaisir de t'avoir. T'es le dernier.
Quel est le rapport?
Tu connais Henri de Lesquin, le mec qui avait dit que le rap c'était la musique nègre et qu'il fallait l'interdire.
Il a dit ça.
Ah, il a mais, un peu de la
stupidité.
Ah
caricaturaux.
T'as créé Henri.
T'as dit Fritz Corleone. Je comprends pourquoi on interdit le rap. Pourquoi les autres rappeurs ils ont des propos antisémites.
J'ai pas dit on interdit le rap. Vous caricaturez.
Non, il a pas dit ça.
Je vous ai dit.
Je vous ai dit. C'est bien de l'interdire. Et c'est effectivement.
C'est bien d'interdire.
Laissez finir Antoine.
C'est bien d'interdire Fritz Corleone, pas le rap.
Mais c'est pas. C'est ce que je dis. C'est bien d'interdire Fritz Corleone.
Je viens de dire ça.
Zora, ton problème, c'est que toi, en fait, tu démontres que dès qu'on touche le rap, t'as l'impression qu'on touche à une communauté. Toi aussi, là, tu viens de me dire que j'étais Benny quasiment B. raciste parce Benny que je
tu
suis.
Mais bien Benny B ou pas?
Mais je sais pas qui c'est Benny
B. Mais si, Benny B, rappelle-toi, ah c'était oui, le premier rappeur. En plus, c'était belge, c'était un de tes cousins.
Benny Hill. Bon, alors, l'interdiction de Fritz Corleone, normal, dit Antoine.
Est-ce que quelqu'un peut défendre qu'on interdise pas ça?
Moi, ce qui m'emmerde toujours dans ces interdictions, c'est que, alors, pour lui, là, c'est un peu. Moi, ce que je comprends pas déjà, c'est
est-ce que c'est normal qu'on l'interdise pas?
Ça serait normal de l'interdire, mais ça serait aussi normal peut-être de l'attaquer au tribunal pour qu'il retire ses paroles de ses chansons. Moi, pour l'instant, je vois pas. À un moment donné, il y a d'autres qui ont été, à qui on a essayé d'interdire et que c'était pas, derrière, c'était pas, il y avait pas il y avait pas de raison. Lui, c'est certainement que ses paroles choquent. Mais enfin, moi, je voudrais, parce que si je dis ça, après, on va dire, ah, le rap, c'est tout ça. Mais à un moment donné, moi, j'écoute du rap depuis que j'ai 15, 16 ans. J'ai commencé par le rap américain, parce que le rap français, c'était quand même pas ça. Il y a dans tous les trucs de rap français, il y a un jour un rappeur qui est hyper connu, qui vend des millions, qui avait pris comme punchline le fait de dire j'arrive lancé comme une Porsche dans les rues d'une ville du 94 qui avait tué, tu sais, il y a une Porsche qui avait tué une famille à un abri de bus. Voilà, c'est comme ça qu'ils font depuis des années, ils s'amusent à faire ça, voilà. Lui par contre, évidemment, il va sur des sujets qui sont quand même assez sales. Moi je trouve que s'il est condamnable, il faut le condamner et que retirer ces paroles-là, on l'a fait pour d'autres. À un moment donné, quand Brassens disait que le gorille fallait qu'il attrape le juge, il a été censuré à une époque. On a censuré comment il s'appelait Gainsbourg avec la Marseillaise en reggae. Enfin voilà, quand c'est condamnable, et ce qu'avait fait Gainsbourg et Brassens, c'était pas condamné, mais ça c'est autre chose. Si c'est condamnable, tu retires. Et si c'est pas condamnable, tu restes. Après, t'as un sujet.
Ce qui m'étonne, c'est toujours qu'on se réveille un peu après.
Bah, surtout que là,
parce que les paroles de Fritz Corleone, elles datent pas d'hier. Et d'un coup, on se réveille, on découvre qu'il a écrit ça et ça passe devant un. Ça passe devant un magistrat.
Alain, on a retrouvé du Benny B.
Mais vous êtes fou.
Oh oui.
Ça je connais.
Ah oui, tu kiffais. Attends,
pourquoi je kifferais particulièrement
de blanc? On est fin des années 80 là.
Parce que toi, t'as une vision raciale de la musique. C'est formidable.
Exactement. Bah, le jazz, c'est vrai, mais le problème, c'est pas d'avoir une vision raciale, c'est pas mal. Tu veux dire, la culture, c'est aussi d'avoir. C'est d'avoir aussi. Non, mais écoute, le gnawa, c'est marocain. C'est pas racial, c'est marocain. Ouais. Le jazz, c'est beaucoup black. Et alors, le rap, c'était beaucoup une musique de black pendant longtemps. Et c'était les premiers. Et d'ailleurs, et qu'est-ce que tu dis? Mais c'est vachement bien qu'on ait interdit Fritz Corleone. Et d'ailleurs, c'est bien, tu vois, le rap. Non, c'est pas le rap, c'est Fritz Corleone le problème.
Mais je t'ai pas dit, c'est bien le rap.
Et en plus, le mec, il devrait être peur, parce que les mecs, ils rêvent
des capitalistes en plus, ouais.
Roulant grosse bagnole.
Ils sont enchaînant d'or qui brille.
Juste un mot. Précisément, le rappeur, il veut être dans la contre-culture, il veut être en opposition, il veut être provoquant. Et vous êtes en train de me dire, non, mais c'est parfaitement normal, etc.
Ah oui.
Mais aucun rappeur. peur ne veut être dans la normalité. Ce qu'ils cherchent,
donc, au contraire,
précisément,
les bagnoles et de la thune. Oui, je veux dire, mais là, tu te trompes.
Donc, ils sont dans la contre-culture. Ils sont dans la contre-culture.
Puisque moi, je suis un boomer et que je suis pas très rap. Est-ce que je peux vous faire écouter un truc?
Choc des mondes, là. Choc des cultures.
C'est
nul.
C'est ACDC. Alors, pourquoi je dis ACDC? Parce que les places vont être en vente dans 5 minutes. Ils font un concert en France à l'hippodrome de Longchamp. On y va, Poncer, ou pas?
Moi, alors là, je t'abandonnerai parce que je crois qu'ils sont même plus vieux que toi. Moi, je l'ai vu en 96. C'était vraiment énorme. Enfin, franchement, c'est un groupe de dingue. Là, il reste plus qui? Il reste le guitariste et le chanteur.
Angus Young et Brian Johnson.
Le chanteur qui est remplacé par Axl Rose, le chanteur des Guns N' Roses, la dernière tournée, parce que je crois qu'il était sourd ou je sais plus quoi. Là, ça fait quand même un peu trop.
Ça fait pas de quoi.
Ouais, là, c'est chaud quand même.
Le batteur n'est plus le même, le bassiste n'est plus le même, le guitariste rythmique n'est plus le même. Je sais pas si ça vaut le coup. Et toi, tu dis si tu les as vus en 96. Moi, je les ai vus en 79, la tournée Highway to Hell avec Bon Scott.
J'imagine même pas.
Moi, j'irai pas à l'hippodrome de Longchamp. Et Bruno non plus.
Est-ce que le métal, c'est une sous-culture?
Non.
Bien sûr.
Le métal, c'est la vie. Dans un instant, l'agriculture, c'est la vie, mais c'est la vie compliquée, c'est la vie difficile de Delphine Serrault, éleveuse de chèvres dans l'Indre, surendettée. Elle écoute les grandes gueules, on l'a contactée et elle va venir nous parler de sa vie au quotidien.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.